Tristan Storm. Vous êtes à l'Université de Nantes, maître de conférences en théorie politique. Vous êtes enseignant et chercheur, donc responsable d'un master sciences politiques de l'Europe. Vous êtes aussi collaborateur scientifique au Centre de théorie politique de l'Université libre de Bruxelles. Alors, vous avez écrit plusieurs ouvrages. J'ai dit à Tristan que je peux, voilà, dont les titres sont intimidants. Ils m'ont demandé des recherches sur Internet et tout, donc voilà, mais bon. Très pointu. Hein. Voilà. Donc, nous allons un peu continuer aussi, bien sûr, sur la continuité. Il y aura une continuité avec la conférence de ce matin. Donc, avec Tristan Storm, nous allons essayer de comprendre si, en nous habituant aux limites imposées au cours de ces dernières années, nous risquons de perdre le sens patrimonial des libertés en démocratie. Merci.
Merci à vous. Bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. D'abord, merci à l'Association des lecteurs de la vie de m'accueillir, de nous accueillir ici au Croisic à l'occasion de cette université d'été. Je suis ravi d'être parmi vous et d'intervenir dans le cadre de cet événement, de contribuer aux réflexions de la semaine autour de ce que deviennent nos libertés aujourd'hui. Alors je vais participer à cette thématique très actuelle et donc m'interroger au devenir de nos libertés en revenant avec vous sur le défi qu'a représenté et que continue de représenter la pandémie de Covid-19 pour notre état de droit démocratique, puisque le moins qu'on puisse dire, c'est que cet état de droit démocratique a été mis à rude épreuve depuis le mois de mars 2020. Alors, disons qu'une fois l'effet de sidération passé, hein, une fois la sidération face à cet événement tout à fait inédit un peu derrière nous, on a certainement toutes et tous ressenti la même inquiétude. On a tous ressenti une inquiétude où on a eu ce sentiment suivant, à savoir que notre liberté était désormais conditionnée, qu'elle était mise sous condition, qu'elle dépendait un peu de la météo sanitaire et qu'elle dépendait du bon vouloir de celles et ceux qui nous gouvernent. Alors cette inquiétude, elle vient d'abord sans doute de ce que le modèle de gestion de la crise sanitaire était un modèle dit exceptionnel. C'est une voie d'exception qui intuitivement ne nous paraissait pas ou qui nous paraît peu compatible avec le respect des impératifs de l'état de droit démocratique et de ces catégories essentielles. C'est un petit peu ça l'intuition de départ, l'inquiétude de départ. Et dès le début de la crise pandémique liée au Covid-19, la loi du 23 mars 2020, très rapidement, cette loi a créé ce qu'on peut désigner comme un cadre juridique nouveau, cadre qu'on a appelé l'état d'urgence sanitaire, introduisant cette possibilité d'un état d'urgence sanitaire dans le Code de la santé publique. Autrement dit, face à cette crise, l'État français a fait le choix, comme en 2015, d'actionner le régime législatif de l'état d'urgence, de sorte que depuis le 13 novembre 2015, la France a déjà vécu 4 ans sous ce régime de l'état d'urgence. D'abord avec l'état d'urgence terroriste, premièrement, qui est resté en vigueur pendant pratiquement 2 années, après pas moins de 6 lois de prorogation, et ensuite, évidemment, l'état d'urgence sanitaire qui a encore été prolongé jusqu'au 31 juillet 2022 par la loi du 10 novembre 2021. Donc, cette notion, cette réalité de l'état d'urgence est quelque chose qui vient saturer notre vie politique, qui vient saturer notre vie sociale, démocratique, depuis un petit moment déjà, depuis, à vrai dire, 2015. Et pas qu'en France, évidemment pas qu'en France, puisqu'on observe plus généralement que la crise pandémique liée au Covid-19 a puissamment renforcé cette tendance à la gestion des crises, d'abord des crises terroristes et puis d'autres crises, en recourant à des pouvoirs d'urgence ou à des pouvoirs d'exception, hein, des régimes dits exceptionnels, d'urgence ou exceptionnels, je ferai la distinction un peu plus tard, ont effectivement été activés dans pas moins de 100 pays. Plus de 100 pays, à vrai dire. Donc, c'est évidemment pas le propre de la France. Alors, notre inquiétude, celle que j'étais en train de pointer du doigt là en introduction, elle a en fait pour origine, elle a pour point de départ une antinomie, une sorte de contradiction conceptuelle. Alors, c'est quoi cette antinomie? c'est d'un côté l'état de droit et les libertés qui sont attachées à l'état de droit, et de l'autre, l'état d'urgence, le mode de gestion de la crise, l'état d'urgence ou l'état d'exception. On a deux expressions qui sont apparemment dichotomiques, qui tiennent en tout cas difficilement ensemble, dans la mesure où l'état de droit renvoie à la norme, au droit, il renvoie à la normalité, à l'ordinaire, tandis que l'état d'exception, au contraire, il est associé aux anomalies, il est associé aux crises, aux dérèglements et à l'extraordinaire. Donc effectivement, on peut regarder l'état d'exception comme, c'est, pour en donner déjà une définition préliminaire, c'est une technique juridique qui est à la disposition de l'État, qui répond à des impératifs d'efficacité dans un contexte de guerre ou dans un contexte de crise qui nécessite d'aller vite. Et cette technique qui est prévue par l'État lui-même use de méthodes qui sont parfois liberticides. En tout cas, des méthodes qui restreignent nos libertés. Des méthodes de contrainte mobilisées dans un objectif de maintien de l'ordre public ou de rétablissement des conditions de l'ordre public. On voit bien que, ici, cette antinomie, c'est qu'il y a deux mondes juridico-politiques différents qui s'entrechoquent. Et on voit que notre inquiétude, elle naît de ce que l'État de droit démocratique aurait besoin du contraire de ce qu'il est pour se perpétuer. Il aurait besoin du contraire de ce qu'il est censé proclamer afin de continuer à exister. Donc il y a une tension. Il y a une tension assez manifeste qu'on ressent très intuitivement entre état de droit slash démocratie d'un côté et urgence slash exception de l'autre. Et le parallèle entre les deux fait, pour ainsi dire, fond sur une opposition qui est très, très instinctive. Eh bien, le choix pour gérer la crise pandémique liée au Covid-19, le choix qui a été fait, alors en France, mais aussi, on l'a dit, dans de nombreux autres pays, ça a été celui de gérer la crise sanitaire en dehors du cadre de la normalité juridique. On est dès lors sorti du cadre entre guillemets démocratique. J'expliquerai pourquoi les guillemets ici, hein, parce que c'est toute une question de savoir à quel point est-ce que ces méthodes sont contradictoires avec la démocratie ou compatibles avec elle. Donc on est sorti de ce cadre-là, de ce cadre ordinaire en tout cas, pour lui préférer le cadre de l'exception ou le cadre de l'urgence, avec des mesures parfois ouvertement liberticides, en tout cas attentatoires aux droits individuels, subjectifs et aux droits fondamentaux, hein, on les connaît, confinement, couvre-feu, etc. La démocratie a même pu apparaître comme étant un obstacle à la gestion de la crise. C'est un point de vue qu'on a vu émerger. On peut par exemple penser, vous avez les déclarations derrière moi, tout en bas de la diapo, on peut penser aux déclarations de l'ancien président de la Ligue contre le cancer, Axel Kahn, en octobre 2020, sur France Culture, qui présentait la démocratie comme le problème, et non pas comme la solution à la crise sanitaire. Je le cite, « En contexte de pandémie, la démocratie est un inconvénient, surtout si elle s'avise à devenir contestataire. » Or, par définition, la démocratie a un régime qui institutionnalise le conflit social, qui institutionnalise le conflit politique, et donc le maintien de la contestation pacifiée, enfin sous une forme pacifiée, est une de ses caractéristiques. Autre déclaration qu'on peut mentionner ici, hein, dans la prolongation de ce que je viens de citer, on peut penser au rapport publié par trois sénateurs en juin 2021, dans lequel on peut lire, je lis ça avec vous, hein, « Si une dictature sauve des vies pendant qu'une démocratie pleure ses morts, la bonne attitude n'est pas de se réfugier dans des positions de principe. » Voilà pour la citation. Donc, en somme, la fin justifie les moyens, quitte à recourir à des moyens qui ne sont pas démocratiques, qui seraient ces moyens plus à même, nous dit-on, de répondre aux impératifs de la crise en cours. Alors, d'où la question qui va m'intéresser avec vous, c'est la question à laquelle je vais essayer de répondre, ou je vais tendre à répondre avec vous aujourd'hui, durant le temps qui m'est imparti. À l'heure des crises répétées, crise terroriste d'abord, puis sanitaire, puis évidemment crise écologique, que reste-t-il de nos principes démocratiques et de l'affirmation de nos droits et libertés ? Est-ce qu'on peut seulement gérer les risques en contexte de crise sans renoncer aux libertés individuelles ? Ça, c'est, si vous voulez, ma question, appelons-la fondamentale, mais il y a une question préalable. Avant cela, une question que je qualifierais d'analytique ou de conceptuelle, à laquelle on va devoir répondre en premier lieu si on veut ensuite répondre au problème de base, au problème fondamental que j'ai à la préoccupation de départ, disons. Alors voici cette deuxième question, cette question plus conceptuelle. L'état de droit démocratique et l'état d'urgence ou d'exception sont-ils, comme on peut le penser intuitivement, contradictoires? Est-ce qu'il y a là une contradiction? Est-ce que ces deux expressions conceptuelles s'inscrivent nécessairement dans un rapport d'incompatibilité? Et si ce n'est pas le cas, si un rapport complémentaire est envisageable, les états d'exception successifs n'ont-ils pas malgré tout endommagé notre cadre démocratique de manière irréversible ou de manière irréparable? Donc s'il y a quand même une compatibilité, est-ce que les usages prolongés de l'état d'urgence ne viennent pas abîmer substantiellement, durablement la démocratie? Donc ça, c'est un peu le programme, si vous voulez, de mon intervention, qui va rester quand même pour partie programmatique, pour l'essentiel programmatique, parce que je n'ai pas la prétention de réussir à répondre irrévocablement à ces deux interrogations, bien sûr. Mais c'est le cap, on va dire. C'est en tout cas à quoi va ressembler le cadre problématique dans lequel je vais inscrire mon propos. Alors pour donner des pistes, pour donner des tentatives de réponse à mes deux questions, je vais procéder en deux temps. C'est comme ça que va se structurer la suite de mon intervention. Chaque temps est associé à une de mes deux questions. Premièrement, on va devoir définir ces expressions, définir ces concepts d'état de droit démocratique. On l'a fait un peu ce matin, Céline l'a fait à partir de Montesquieu notamment. Revenons sur ce que les juristes aujourd'hui entendent par l'état de droit démocratique et par l'état d'exception. Hein, on va devoir un peu poser les termes afin de voir ce qui les relie, afin de voir s'ils ont été pensés comme des contraires ou à quel point est-ce qu'ils peuvent s'articuler ou non. Donc ça, c'est mon premier temps majeur, disons, répondre à cette question d'articulation entre ces deux concepts. Qu'est-ce qui les distingue et comment est-ce qu'ils sont articulables l'un à l'autre? Deuxièmement, deuxième temps majeur, on va devoir se confronter aux risques et aux problèmes que charrie la gestion des crises par l'urgence ou par l'exception. À savoir, bon, il y en a d'autres, mais je vais me focaliser sur deux dangers, deux risques, deux périls en particulier. D'abord, le risque d'une banalisation et d'une normalisation. C'est pas exactement la même chose. Je ferai la distinction banalisation et normalisation des mesures exceptionnelles et des mesures liberticides qui pourraient perdurer par-delà la gestion de la crise elle-même. Première chose. Et ensuite, le risque d'une mutation, disons, du pouvoir démocratique, du gouvernement démocratique, en un pouvoir technocratique, post-démocratique, qui serait arrimé à un savoir d'experts, qui sont des experts non élus. Ce sont deux problèmes, en tout cas, deux dangers qu'il faut regarder d'un peu plus près, qui sont liés aux usages de l'exception et qui reviennent à mettre en évidence qu'un état d'urgence prolongé peut peut-être faire subir durablement des dommages à l'état de droit démocratique. Donc ça, c'est donc une question de fondamentale de départ. Hein. Que reste-t-il de nos principes démocratiques et de nos droits et libertés une fois que l'urgence est passée par là? En quelque sorte, c'est un peu ça la question, mais qui va nécessiter qu'on en passe par la question conceptuelle. Alors maintenant que j'ai annoncé ces deux temps de mon intervention, on va pouvoir entrer de plein pied dans ma première partie. C'est quoi l'état de droit démocratique tel que l'entendent les juristes aujourd'hui? Et c'est quoi l'urgence? C'est quoi l'état d'urgence? C'est quoi l'état d'exception? Alors commençons par la définition de l'état de droit démocratique. Alors cette définition, aujourd'hui, disons, pour faire les choses simplement, implique au moins trois éléments. Il y a au moins trois éléments essentiels qu'il faut mentionner. Quels sont-ils? Eh bien, les deux premiers éléments renvoient généralement au syntagme état de droit, donc à l'expression, si vous voulez, qui conjoint l'état et le droit. Et le troisième élément renvoie à la détermination spécifiquement démocratique de cet état. Je vais un petit peu détailler ça là tout de suite. Donc, trois éléments. Premièrement, un état de droit, ça repose sur la limitation du pouvoir et sur la limitation de la souveraineté de l'état par le droit au singulier. C'est l'idée que le droit constitue une limite à la souveraineté de l'État et au pouvoir de celui-ci, tel que Céline nous en a parlé ce matin. Ça suppose un ordre constitutionnel, c'est-à-dire que ça suppose l'existence d'une norme fondamentale sur laquelle se base la validité de toutes les autres normes. C'est une norme qui est, du coup, plus difficilement modifiable que les normes dérivées, et c'est une norme qui organise l'exercice des pouvoirs, en ce compris la limitation des pouvoirs les uns par les autres, ou l'équilibre entre ces pouvoirs. Et elle y procède par ce fameux principe qu'on a évoqué ce matin de séparation des pouvoirs, principe qui, dans la tradition constitutionnelle américaine, s'appelle le check and balances, Céline nous l'a dit, à savoir l'ensemble des mécanismes assurant le contrôle et l'équilibre des pouvoirs, non seulement entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, mais aussi entre les instances fédérales et fédérées. Donc, premièrement, une limitation des pouvoirs de l'État par le droit au singulier, ce qui suppose, je l'ai dit, un ordre constitutionnel, donc une norme fondamentale. Pour le dire en un mot, ça renvoie à un principe d'organisation. C'est-à-dire que la séparation des pouvoirs est instaurée pour notamment contrôler l'emploi que fait l'État de son monopole de la violence. C'est notamment là pour contrôler l'usage que va faire l'État de ce monopole légitime de la force. Donc ça vient, pour le dire simplement, empêcher l'arbitraire de l'État. C'est un frein à l'arbitraire de l'État. Deuxièmement, ensuite, à côté de ce premier principe, l'État de droit exige la limitation du pouvoir de l'État par les droits, cette fois au pluriel. C'est-à-dire qu'il exige la reconnaissance et la protection par l'État des libertés et des droits fondamentaux des individus. Des individus qui sont d'ailleurs, qui d'ailleurs possèdent le statut de sujet de droit dans l'ordre juridique. Dans l'ordre juridique de l'État, les individus sont des citoyens, sont des sujets de droit. L'État de droit a ainsi le devoir de rendre possible et de protéger l'exercice des libertés et des droits de l'individu, comme la liberté d'aller et venir, la liberté d'expression, la liberté de culte, le droit à un procès équitable, etc. etc. Donc il a le devoir de protéger ses droits et libertés, non seulement contre ses propres abus à lui-même, contre ses propres abus de pouvoir, mais aussi contre les actions abusives des individus tiers. Donc deuxièmement, c'est ça ce deuxième principe, une limitation des pouvoirs de l'État par les droits au pluriel, ce qui, cette fois-ci, renvoie pas à un principe d'organisation, mais à un principe de répartition, au sens où la garantie des droits et des libertés est assurée par l'État, qui peut, au besoin, recourir à la force, recourir à la violence, pour supprimer l'usage de la contrainte dans les relations privées. Et ce monopole étatique de la violence, de la force, vous l'aurez compris, est lui-même borné en vertu du premier élément, du premier principe, qui est, lui, organisationnel. Donc ça, ce sont les deux premiers éléments de la définition qui contribuent à expliciter ce qu'est l'état de droit, qui est aussi démocratique. Et donc, troisièmement, quand l'état de droit est dit démocratique, ça signifie en principe que la souveraineté de l'État est fondée sur la souveraineté populaire. C'est ça que ça veut dire, que la souveraineté du peuple siège à la racine de la souveraineté étatique. Et dans les démocraties contemporaines, la souveraineté populaire s'exerce le plus souvent par le moyen d'institutions, par le moyen de dispositifs qui relèvent de la démocratie indirecte ou de la démocratie représentative, donc très concrètement, c'est-à-dire par l'organisation d'élections libres, et d'élections ouvertes, et par une structuration de l'offre politique, par un système qui est multipartite, où il doit y avoir plusieurs options possibles, plusieurs voies qui sont en concurrence. Donc c'est un système pluraliste, concurrentiel, pluraliste. Il y a une pluralité d'options politiques et de partis politiques. Et nos dirigeants sont légitimes, d'un point de vue démocratique, dans la mesure où ils ont reçu l'assentiment des électeurs, ils sont élus et de ce fait, ils représentent le peuple national et l'intérêt de ce peuple. Avec ces trois éléments, on a ce que j'appellerais une définition minimale de l'état de droit démocratique, en tout cas du point de vue de la science juridique. Et selon cette définition, l'état de droit qu'on appelle aussi rule of law en anglais, que c'est ce que disent les anglo-saxons, le règne du droit et des droits, cet état de droit peut même être regardé comme la finalité de l'État. Aujourd'hui, dans nos régimes démocratiques libéraux, on peut même l'envisager comme une finalité. Et disons que, à côté de ça, cependant, cette notion n'est applicable dans toute sa plénitude, dans toute son étendue, qu'en temps normal. Cette notion-là qu'on vient de prendre le temps un peu de définir, elle est seulement applicable dans toutes ses dimensions dans la normalité politique, en temps normal. Dès que surgissent des circonstances exceptionnelles qui viennent mettre en danger l'existence même de cet état de droit ou de la communauté politique, la priorité, elle est alors accordée non plus aux composantes que je viens de mentionner avec vous, non plus à la garantie des droits, à la séparation des pouvoirs, mais à la conservation de l'état de droit. C'est pourquoi des aménagements sont organisés, des aménagements qui autorisent, comme on l'a vu depuis mars 2020, la concentration des pouvoirs dans les mains de l'exécutif et la restriction des libertés individuelles. Alors, il faut bien voir que l'état de droit, lorsqu'il est affecté par une réalité qui vient mettre en cause, qui vient mettre en péril ses composantes, il en vient à recourir à des techniques qui mettent ses composantes entre parenthèses. Et là, il me faut un petit peu définir ce que sont ces techniques, justement. Ces techniques qu'on appelle parfois état d'urgence, parfois état d'exception. J'arrive donc dans un second temps de cette première partie. Autre élément à définir, l'état d'urgence et l'état d'exception. Donc je disais que ça renvoie à des techniques mettant les deux composantes de l'état de droit entre parenthèses. Alors, ici, c'est un contexte incontestable qu'il s'agit d'un régime de restriction des libertés. L'état d'urgence ou l'état d'exception est un régime de restriction des libertés. Et affirmer ça, c'est simplement mentionner un élément définitoire, enfin définitionnel de l'état d'urgence. Ça fait partie de la définition de l'état d'urgence. Une fois qu'on a dit ça, cependant, il faut éviter certaines simplifications, disons, puisque, à proprement parler, l'état d'urgence n'est pas une suppression de l'état de droit, heureusement. Ce n'est pas une suppression de l'état de droit, c'est un régime de dérogation temporaire à l'état de droit, qui est plus ou moins encadré juridiquement, qui a vocation à sauver, vocation à sauvegarder l'ordre de droit quand il est en crise, quand il est en danger. Alors jusqu'ici, j'ai un peu eu l'air de parler indifféremment d'état d'urgence, d'état d'exception, de régime exceptionnel, mais il y a bien une gradation. Il y a une gradation entre l'article 16 de la Constitution 1958, les pleins pouvoirs, l'état de siège qui est évoqué à l'article 36 de la Constitution française, et l'état d'urgence qui découle de la loi de 1955. Et c'est ça qui m'intéresse en particulier, c'est cet état d'urgence. Et donc des trois régimes là que je mentionne, et c'est mon deuxième point derrière moi, là, de ces trois régimes exceptionnels qui permettent déroger aux règles administratives et procédurales de droit commun, l'état d'urgence est le moins attentatoire aux principes démocratiques fondamentaux. Pourquoi ? Parce qu'il n'opère aucune confusion des pouvoirs législatifs et exécutifs. Il ne confie aucun pouvoir à l'armée, mais il permet toutefois une extension importante de certains pouvoirs de police, une extension importante de certains pouvoirs de l'administration, etc. Il y a donc effectivement une gradation entre du premier au troisième régime ici, mais ces différents régimes d'exception dérogatoire, je crois qu'ils se laissent tous les trois rangés dans une seule et même catégorie, qui est celle de l'état d'exception, qui est une catégorie générique, si vous voulez, dans laquelle on peut ranger les trois, on peut classer les trois. Et cet état d'exception, un grand juriste allemand du siècle précédent, qui s'appelle Carl Schmitt, avait étudié en profondeur son fonctionnement dans les années 20, alors que la République weimarienne était paralysée et que sa constitution prévoyait le déclenchement d'un article qui définissait l'état d'exception, lui essaye de voir comment fonctionne cet état d'exception. Alors, c'est sans doute celui qui a analysé au plus près son fonctionnement, c'est pourquoi je le mentionne. Et si je m'en remets, c'est dans cet ouvrage-là, intitulé « Théologie politique », que Schmitt analyse l'état d'exception. Si je m'en remets à son analyse, qu'est-ce qu'on peut constater ? Eh bien d'abord, tout état d'exception, quel que soit son nom, état de siège, état d'urgence, pouvoirs spéciaux, tout état d'exception menace la liberté et compromet l'effectivité de la Constitution dans toutes ses dimensions. Ils constituent tous, à des degrés divers, des suspensions partiel de l'ordre constitutionnel, étant donné qu'il déroge à des libertés fondamentales qui sont garanties par la Constitution. Ok, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que ces différents régimes exceptionnels viennent suspendre une partie de l'ordre constitutionnel ? Eh bien, Schmitt soutient qu'il existerait des cas limites où l'exigence de sauvegarde de l'existence même de l'État ou de la communauté politique, sous l'effet d'un tumulte interne ou externe, une guerre civile, une crise extrêmement profonde, sous l'effet d'une révolution, etc., eh bien, tout cela rendrait nécessaire une période d'exception aux normes ou à la Constitution. Et Schmitt va pointer un paradoxe central ici, parce qu'évidemment, c'est un paradoxe qui est au cœur de l'intuition, de l'inquiétude de départ que j'avais mentionnée. Il y a un paradoxe central, c'est que dans certaines circonstances exceptionnelles, il semble nécessaire de suspendre le droit pour le garantir. Évidemment, c'est paradoxal. Ou plus exactement, il semble nécessaire de suspendre une partie des droits reconnus, ou une partie de la Constitution, ou des libertés qu'elle consacre, pour garantir l'existence de l'État, et par là, l'existence du droit et de la Constitution. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que pour cet auteur, l'exception prouverait qu'à la limite, en dernier ressort, la réalisation du droit se fait par le biais de sa négation ou de sa suspension. Et dans ce cas-là, la décision du chef de l'État, de la personne qui est au pouvoir, aurait ultimement pour dessein de conserver le droit en le suspendant. Voilà le paradoxe. Et Schmitt affirme que dans le cas exceptionnel, l'État subsiste tandis que le droit recule. Mais c'est au nom du droit lui-même que ce droit recule pour un temps. Qu'est-ce que ça veut dire plus concrètement, disons? Eh bien, ça signifie que le droit a ses conditions d'exercice en dehors de lui-même, dit Carl Schmitt. Autrement dit, le droit ne peut pas soutenir lui-même. Le droit ne peut pas... donc c'est une position qui est justement une position qui vient avancer contre son ennemi théorique de l'époque qui s'appelait Hans Kelsen, qu'on a cité ce matin aussi. Mais donc, le droit renvoie toujours... Ce que veut dire Schmitt ici, c'est que le droit renvoie toujours à un ordre et à une situation dont il revient au chef d'État, au souverain, de décider si c'est une situation normale ou une situation exceptionnelle. Donc le souverain, et c'est la raison pour laquelle il est souverain, décide seul de proclamer l'exception ou de proclamer l'urgence. Il décide seul de ce qui est normal et exceptionnel. Personne ne peut lui interdire de le faire. Donc il y a ici... dans la définition schmittienne, une subordination du droit au politique. Vous voyez bien ici que le droit se doit même d'être subordonné au politique dans la mesure où le politique est quelque part la condition de possibilité de ce droit lorsqu'on est face à un cas limite. Mais le point crucial ici, ce qui constitue, je dirais, la légitimité de cet arbitraire du souverain, c'est que l'exception est temporaire. C'est une période qui est inscrite dans la brièveté. Elle possède un caractère nécessairement transitoire. C'est un moyen en vue d'une fin qui est quasi immédiate. Cette fin, c'est quoi ? C'est le rétablissement des conditions d'exercice du droit, rétablissement des conditions de la normalité juridique. Donc on a là un outil qui permet au droit de surmonter les crises et de continuer à exister, de le mettre entre parenthèses le temps qu'on solutionne la crise. Si je résume ici ce que j'essaye de vous dire, bien lorsque les dangers, les périls opposés à l'autorité de l'État ne parviennent pas à être dominés par des outils juridiques normaux, lorsque ces dangers atteignent une intensité telle, une gravité de nature à remettre en question l'intégrité de la communauté politique ou de l'État, alors l'État délaisse pour un temps, mais j'insiste là-dessus évidemment, c'est toute la difficulté, c'est tout le problème face auquel on se trouve aujourd'hui, c'est que dans la définition juridique du terme, c'est inscrit dans... c'est temporaire, c'est un régime transitoire. Donc pour un temps, ces principes qui font l'état de droit sont suspendus en vue de le rétablir. Et donc l'heure, à ce moment-là, l'heure est à la concentration des pouvoirs et à la restriction des droits. Et c'est ce à quoi on a assisté, évidemment, avec l'avènement du péril pandémique. Bien au-delà de la seule liberté d'aller et venir, c'est un très grand nombre de droits et libertés qui ont été affectées, annulées ou restreintes de manière significative. En France, comme dans un tas d'autres pays, les mesures qui ont été prises face à la pandémie de Covid-19 ont été d'une rigueur inédite en temps de paix. Et dans un avis du 26 mai 2020, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH française, a décrit les restrictions aux libertés décidées en 2020 comme étant, je cite l'avis, d'une ampleur jamais égalée, tant par leur généralisation à l'ensemble des droits et libertés que par leur étendue. Donc effectivement, il y a un caractère assez inédit à ces restrictions en vue de la conservation de l'intégrité de la communauté politique. C'est un point qui est d'autant plus remarquable que les cours constitutionnels n'ont censuré aucune mesure clé de l'état d'urgence sanitaire, en tout cas en France. Aux Pays-Bas, ça n'a pas été le cas, par exemple, puisqu'il y a effectivement eu une suspension de certaines décisions par des cours constitutionnels. Et ces cours constitutionnelles françaises n'ont pas même émis la moindre recommandation d'assouplissement. Sans doute pourquoi ? Parce qu'en pareil contexte de crise, le postulat de l'exécutif, c'est qu'il n'y a pas de réel choix. L'alternative, elle se trouve entre, qui n'est pas vraiment une alternative, elle se trouve entre se battre pour sauvegarder l'intégrité de la population, de la communauté politique, de l'état de droit, ou alors, mais bon, c'est pas sérieux, ou alors se résoudre à la désagrégation de la communauté et de l'État, se résoudre à laisser la catastrophe opérer. Donc en mars 2020, rappelez-vous, le président de la République a annoncé que nous étions en guerre. L'urgence est telle, l'absence de choix serait telle qu'on ne peut qu'accepter, sans discuter, la suspension de toutes nos activités jugées trop risquées. C'est une situation de guerre. Il y a pas, quand on est en guerre, il n'y a pas réellement de choix. L'alternative est telle que je viens de la décrire, que ce n'est pas vraiment une. J'en arrive ainsi à la deuxième partie de mon intervention, celle consacrée aux problèmes que charrient les régimes d'urgence, qu'on voit déjà poindre à ce stade de mon exposé, à savoir la banalisation et la normalisation de mesures exceptionnelles d'un côté et l'émergence d'une nouvelle forme de pouvoir, un pouvoir post-démocratique ou technocratique de l'autre. Alors attention, maintenant je vais aborder la question des problèmes, mais je ne suis pas du tout en train de vous dire que l'état d'urgence sanitaire n'était pas la solution. C'est-à-dire qu'effectivement, face à de telles crises, il n'est pas du tout certain que nos démocraties aient d'autres outils actuellement que celui-là. Ça ne veut pas dire que, étant donné les crises qui se répètent et qui ne font que se prolonger, il ne faille pas réfléchir à d'autres outils qui sont peut-être davantage en adéquation avec les impératifs de l'état de droit démocratique. Parce que l'état d'exception et l'état d'urgence posent toute une série de difficultés que je vais essayer maintenant d'aborder avec vous. Alors, parce qu'on peut avoir un doute quand même, on peut douter que les gouvernants n'aient d'autre choix que de s'en remettre au régime exceptionnel, dans toutes les circonstances en tout cas auxquelles peut renvoyer la loi du 3 avril 1955 sur l'état d'urgence. Les dispositions de cette loi sont des dispositions très vagues en réalité. Elles renvoient, donc j'ai un peu vite, vous avez derrière moi justement le texte de la loi qui dit que ça renvoie à tout péril, les dispositions renvoient à tout péril imminent résultant d'une atteinte grave à l'ordre public ou en cas d'événement présentant par leur nature ou leur gravité le caractère de calamité publique. Ça, c'est la citation du texte de loi. Ainsi, l'état d'urgence a pu être employé pour faire face à des circonstances dont on peut penser qu'elles ne mettaient pas en péril l'existence de l'État français, par exemple les événements en Algérie, ou qu'elles auraient pu être traitées par le fonctionnement normal des institutions, dans le cas par exemple des violences indépendantistes en Nouvelle-Calédonie en 85, ou dans le cas des émeutes urbaines en métropole durant l'hiver 2005-2006. On peut en tout cas soulever la question, est-ce qu'on avait besoin dans ces cas-là de l'état d'urgence, ou est-ce que la temporalité normale du droit et du politique n'aurait pas suffi à gérer ces crises? Disons en tout cas que la loi de 1955 est vague dans ces termes, dans ces dispositions. Elle est si vague que certains chercheurs, certains intellectuels ont exprimé leur crainte de voir l'état d'urgence utilisé pour briser une grève, par exemple, ou pour éteindre une agitation sociale, ou pour interdire des manifestations, pour interdire l'expression d'un mécontentement citoyen, comme c'est censément permis en démocratie et même censément souhaitable. Eh bien, à ce problème du caractère vague, c'est une première chose, c'est d'abord le texte juridique lui-même qui peut poser difficulté. À ce problème-là s'en ajoute un autre, qui est celui des prorogations successives, des lois de prorogation. Et là, j'entre dans la question de la banalisation et de la normalisation des mesures exceptionnelles. Parce que de mars 2020 à nos jours, l'état d'urgence sanitaire a été prolongé, depuis 2015, il a été prolongé 12 fois. Il y a 12 lois de prorogation depuis 2015, il y a 6 lois de prorogation depuis mars 2020, y compris lorsque il n'était pas tout à fait certain que la situation épidémique l'exigeait. Et ça s'est fait au nom de la prudence, au nom d'un principe de vigilance. Et il a parfois été prolongé jusqu'à nouvel ordre, une expression qu'on a beaucoup entendue, à un point tel que l'état d'urgence menaçait de devenir notre normalité politique. En tout cas, on ne savait pas jusqu'où est-ce qu'il allait perdurer, avec une situation où le rôle d'autres institutions centrales, comme le Parlement, était réduit au rôle d'une chambre d'enregistrement. En fait, depuis le lendemain des attentats du 11 septembre 2001, la catégorie générique d'état d'exception est revenue en force. Ce n'est pas du tout le propre de la France, évidemment. C'est une catégorie qui s'est inscrite au cœur même de toute une de grands questionnements qui travaillent les philosophes du politique, les philosophes du droit. Et il suffit de regarder le nombre croissant de publications, d'articles de recherche qui se sont écrits depuis 20 ans sur le sujet. C'est tout à fait colossal. La littérature est immense sur le sujet. Tout ça donne en fait à penser que l'état d'exception a acquis la puissance d'une catégorie politique à partir de laquelle la place de la plupart des autres concepts politiques et juridiques classiques sont appelés à être redéfinis et redistribués. Il y a quand même une question qui mérite d'être soulevée ici, où on peut avoir le sentiment que c'est autour de l'état d'urgence que les autres concepts sont appelés à se définir. Ici, on peut citer un philosophe controversé pour ses positions, notamment par rapport au Covid, qui réfléchit à la question de l'exception depuis bien longtemps, un philosophe italien qui s'appelle Giorgio Agamben, qui, depuis plus de 15 ans, s'intéresse à la question de la prolifération des mesures exceptionnelles, en particulier au départ ces mesures d'exception pour lutter contre le terrorisme. Et il pointe du doigt une voie de banalisation, une voie de généralisation, et il en vient à dire qu'on assisterait à l'avènement d'un nouveau paradigme de gouvernement. Nous serions gouvernés par l'exception, dit-il. C'est une thèse qui est évidemment discutable, mais qui a essaimé. Il y a vraiment toute une série de chercheurs, intellectuels et autres qui se sont rangés derrière cette thèse et qui l'ont colportée. Alors, ce paradigme, ce règne de l'exception, ce règne de l'urgence, ferait désormais office de loi, dit-il. L'extension de l'état d'exception serait ce contre quoi se jouerait le cœur du combat politique aujourd'hui. Et l'état d'urgence sanitaire qui a succédé à l'urgence antiterroriste serait l'avatar le plus récent de cet état d'exception. Alors, quoi qu'on puisse penser de cette thèse et de ces analyses, le paradigme de l'exception qui se banalise, qui se généralise, n'est pas sans poser toute une série de difficultés. Le fait que cet état d'exception soit prorogé, prolongé de manière répétée, ça soulève toute une série de difficultés. Le recours à l'état d'exception, on l'aura compris, se justifie par l'urgence. Ce que je vous disais, c'est inscrit dans sa définition, ça se justifie par l'absolue nécessité d'agir rapidement, avec promptitude. Donc il se justifie par l'immédiateté de la réaction liée à un sentiment de légitime défense, qui relève presque de l'instinct, qui relève presque du réflexe. On sauve ce qui doit l'être dans l'urgence. Donc c'est un outil approprié dès lors qu'il est question de résoudre des crises qui sont particulièrement intenses, mais brèves. Et ce recours à l'exception tend certes à mettre à mal la volonté du peuple, le respect des droits et des libertés fondamentaux et le souci de contrôler le pouvoir, tout ça c'est vrai. Cependant, je l'ai dit, on l'accepte du fait de la nécessité d'agir avec célérité, avec rapidité, durant une période qui se doit d'être effectivement temporaire, délimitée dans le temps, qui n'a pas vocation à durer plus de quelques jours, voire de quelques semaines, dans l'idée de l'état d'exception. Or, évidemment, le terrorisme djihadiste qu'on connaît depuis une vingtaine d'années, au moins, ce n'est pas un phénomène temporaire. Le terrorisme, de manière générale, n'est pas un phénomène temporaire. Ce n'est pas quelque chose à prendre, qui risque de prendre fin d'ici quelques jours ou d'ici quelques semaines. Et il en va de même pour le risque pandémique, qui est aujourd'hui un risque de long terme, non seulement le risque lié au Covid-19, mais aussi ceux en lien avec les prochaines épidémies ou pandémies possibles. Donc la réponse à ces problèmes, on ne peut sans doute pas la trouver dans le régime de l'exception. Elle doit manifestement résider ailleurs, si ces risques sont devenus des risques de temps long. Dans son principe, l'état d'exception n'a pas pour objectif d'apporter une solution durable à une menace qui n'est pas moins durable. Une fois que le moment du péril extrême est passé, le péril imminent dont parle le texte de la loi 1955, une fois que ce péril est passé, il faut revenir à la légalité normale. Pour être soutenable à terme, l'action contre le terrorisme ou contre la menace pandémique ou écologique, cette action doit être en conformité avec les principes et avec les valeurs constitutionnelles de nos États qui en sont affectés. Partant de là, dès le moment où on se trompe de paradigme, dès le moment où on confond normalité et exception, le risque d'arbitraire ne fait alors que s'intensifier. Le terrorisme ou les épidémies sont, à bien y regarder, des dangers permanents. De sorte qu'après l'urgence, il est toujours envisageable de prolonger l'état d'urgence. Parce qu'il y a toujours cette menace planant sur l'État ou sur les citoyens. Donc les modalités de sortie de l'état d'urgence deviennent floues. Elles deviennent évasives. Ce qui ne devait être qu'un moment, qu'une exception, menace de devenir permanent, menace de se généraliser. Et ce qu'on constate, et là je renvoie aux analyses de Stéphanie Hennette Vaucher, ce qu'on constate, c'est qu'arrimé à l'ordre juridique, l'état d'urgence qui se généralise, qui se banalise, tend à s'entremêler toujours plus étroitement avec le droit commun. C'est ainsi que les lois dites de prorogation d'état d'urgence, dont je vous ai parlé, cette loi qui prolonge l'état d'urgence, vont souvent au-delà de cet objet strictement temporel, et elles incluent des amendements, elles incluent des modifications du droit commun. Par exemple, pour ne citer qu'un exemple, la loi du 11 mai 2020, qui prolongeait l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet de la même année, cette loi modifiait diverses dispositions du Code de la santé publique. On peut penser à celle gouvernant le régime juridique de l'isolement et de la quarantaine, ou à celle permettant la création des fichiers CIDEP et Contact Covid, qui contiennent les données de santé relatives aux personnes infectées, à leurs contacts, qui vont continuer d'exister au-delà de l'état d'urgence sanitaire. Donc on voit bien que l'état d'urgence n'est pas sans laisser des traces sur la normalité juridique, et donc sur l'état de droit démocratique. Toutes ces modifications du droit existant débordent le strict cadre de l'état d'urgence à l'occasion duquel elles ont été adoptées. Elles ont vocation à lui survivre. Et l'état d'urgence est donc plus qu'un ajout temporaire et extérieur au droit commun. Il est profondément imbriqué dans le droit commun avec lequel il s'entremêle selon des logiques complexes et parfois illisibles pour le citoyen. Donc on voit combien il paraît difficile de sortir pleinement de l'état d'urgence. Au contraire, l'état d'urgence tend à se normaliser, au sens où, ici il faut distinguer banalisation et normalisation, disons, au sens où des règles qui sont initialement spécifiques à l'état d'urgence sont désormais intégrées dans le droit commun. Les régimes transitoire de sortie, ou encore les régimes de gestion de crise sanitaire, toute une série d'expressions comme ça, pour parler d'un régime transitoire. On a comme un entre-deux entre la normalité juridique et l'état d'urgence pour sortir de l'état d'urgence. Eh bien, tous ces régimes, toutes ces appellations continuent d'allouer au pouvoir exécutif tous les pouvoirs qu'il confère à l'état d'urgence, sauf qu'on n'est plus dans l'état d'urgence à ce moment-là. Bon, donc ça, c'est une première chose. En tout cas, c'est un premier nœud auquel on se doit de réfléchir. Parce que si ces crises, qui sont réelles, la crise écologique est une crise réelle, la crise pandémique était une crise réelle, si ces crises sont appelées à se répéter, à effectivement durer, il y a lieu de s'interroger quant à l'outil qu'on a à disposition et à faire en sorte que soient mises publiquement en débat les dérogations qu'on va faire à l'état de droit. Alors, j'aimerais terminer rapidement mon intervention en évoquant un second problème, plus brièvement cette fois. Ce problème, c'est quoi ? C'est celui de l'émergence d'un pouvoir des experts qui ont capté, un peu malgré eux, le savoir, une partie importante de la parole publique, faisant fond sur la décision politique, transformant cette décision politique en une décision scientifique, quelque part. Or, en démocratie, la décision politique ne saurait être une décision scientifique. Elle procède nécessairement d'un débat public entre représentants du peuple ou entre citoyens au sein d'un espace de délibération, au sein d'un espace public de délibération. Si c'est plus le cas, si c'est pas le cas, si c'est tendanciellement pas le cas, on risque, quelque part, de venir fermer la société démocratique. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là en disant fermer la société démocratique ? En fait, je renvoie à une expression vient d'un auteur qui s'appelle Karl Popper, épistémologue, donc philosophe des sciences, mais qui a aussi réfléchi un petit peu aux politiques dans un livre qui est un classique des sciences sociales qui s'appelle « La société ouverte et ses ennemis ». Et qu'est-ce que nous dit Popper ? Popper, il distingue société ouverte et société fermée. Il dit une société ouverte, c'est une société qui accepte de mettre en cause ses propres lois et ses propres institutions au sein d'un espace public de discussion, qui idéalement doit être illimité. Ça, c'est une société, si vous voulez, pour aller très vite, démocratique. Ainsi, Popper nous dit, chez les anciens Grecs, c'est vrai qu'il existait un espace de délibération, un espace public de discussion, de critique, en tout cas dans les cités démocratiques de Corinthe ou d'Athènes, les citoyens se réunissaient sur la place publique pour discuter des décisions qui engageaient l'avenir de la cité. Alors cependant, les possibilités critiques ou autocritiques étaient limitées dans ce cas-là, du fait qu'avant de prendre des décisions importantes, les citoyens consultaient l'oracle ou consultaient la Pythie pour savoir si les dieux leur étaient favorables. Donc la rationalité critique des anciens était en fait limitée par l'oracle. Ce que je veux dire par là, c'est que l'oracle maintenait l'institution correspondant à l'idée d'une vérité qui n'est pas produite dans l'exercice public de la raison, mais qui se donne plutôt comme révélation. Donc c'est une vérité qui ne vient pas des citoyens, qui ne vient pas des hommes, elle est donnée de manière extérieure. Ce qu'on appelle en philosophie l'hétéronomie, c'est le fait de ce que la loi vienne de l'extérieur de ceux sur lesquels elle doit s'appliquer. Elle est donnée depuis l'extérieur. Et donc ce qui m'intéresse dans mon cas, c'est que une société fermée, cette fois, c'est une société qui structurellement empêche la critique publique. Dans les sociétés traditionnelles, c'est la religion qui limite l'exercice de la raison critique, l'oracle ou la Pythie, tandis que dans les sociétés modernes, c'était davantage l'idéologie qui peut réaliser la fermeture, comme c'est le cas dans les formes totalitaires, hein, dans le stalinisme ou dans le nazisme, par exemple. Et donc, ici, on n'est pas dans un cas où, parce que la parole publique n'a pas été confisquée par les scientifiques, hein, évidemment que il y avait du débat autour de tout ça, mais une vigilance s'impose très certainement, et on peut se demander, disons, dans nos sociétés contemporaines, si la médecine et la science ne risqueraient pas à terme de constituer quelque chose comme un principe de fermeture du débat public. À bien y regarder, au plus fort de la crise sanitaire, le rôle des médecins ne s'est pas borné à celui d'influencer l'opinion publique. le conseil scientifique qui a été mis en place en mars 2020 par le gouvernement, composé de 13 experts, ce conseil a effectivement joué un rôle décisif dans le processus décisionnel, menant aux mesures de restriction prises par le gouvernement français, et ce conseil scientifique a rédigé et publié une vingtaine d'avis et de notes à destination du gouvernement, livrant par ailleurs des recommandations qui sont bien, bien souvent des recommandations sans appel dans ces avis, il faut les lire de près, du genre « telle option sera la plus efficace sur le plan sanitaire ». Et avant chaque conseil de défense, le président Emmanuel Macron se réunissait avec le conseil scientifique dans l'objectif de recueillir l'avis détaillé de ce conseil. Eh bien, il nous est quand même permis, en tout cas, de faire une hypothèse ou de poser la question que c'est moins le conseil de défense que le conseil scientifique qui a été central dans le processus décisionnel de la gestion politique de la pandémie. C'est-à-dire que quelques experts non élus, dont la légitimité démocratique est par conséquent discutable, ont décidé de nos libertés les plus fondamentales sans que les décisions de ce conseil n'aient à proprement parler, au sens fort, disons, mise en débat. On n'a pas, rigoureusement parlé, organisé un débat autour de la décision politique qui découlait de la vie scientifique. Donc il ne s'agit pas de questionner la vie scientifique, il s'agit de mettre en débat ces avis qui découlent d'un conseil. Alors même qu'on sait qu'à côté de la ligne dure du conseil scientifique, le reste de la communauté scientifique était en réalité fortement partagé sur toute une série de mesures. Donc derrière l'exercice des pouvoirs d'urgence, il y a donc des scientifiques, des médecins, des experts qui deviennent des acteurs politiques majeurs, étant donné qu'ils détiennent une connaissance, ils détiennent un savoir sur l'objet des politiques sanitaires, un savoir que vous et moi n'avons pas. Donc ici, il y a une asymétrie de compétences, il y a une asymétrie de connaissances qui confère, de fait, à certains citoyens une supériorité symbolique du fait qu'il leur donne un pouvoir politique immense et qui vient mettre entre parenthèses, ou qui vient mettre, en tout cas, sur pause, toute discussion au sein d'un espace public informé. On peut imaginer, enfin, ce sont des propositions qui ont émergé plus tard, évidemment, parce que nos gouvernements ont travaillé dans l'urgence face à des situations tout à fait inédites, mais qui sont celles de mettre en discussion des propositions qui émanent de plusieurs pans de la communauté scientifique. Il y a en tout cas un risque qui est identifié par toute une série de spécialistes de ces questions, un risque qu'on pourrait dire technocratique ou post-démocratique, où les options politiques ne sont plus discutées publiquement et où on fait comme si une recommandation scientifique équivalait à une décision politique. Ce qui a pu trouver une illustration à travers l'idée de frein d'urgence. Mais donc, vous voyez ici que c'est ce que j'ai voulu identifier, il y a deux problèmes, il y a au moins deux problèmes que j'ai essayé d'identifier, d'exposer avec vous, soit celui d'une normalisation, banalisation de l'état d'urgence et celui d'une post-démocratisation du gouvernement politique. Ce sont ces problèmes qui font dire au philosophe italien que j'avais cité là, plutôt Giorgio Agamben, qu'une société qui vit dans l'état d'urgence perpétuel ne peut pas être une société libre. Alors, c'est peut-être une banalité que de l'affirmer, hein, je terminerai par là, mais un état d'urgence prolongé qui s'inscrit dans la durée, donc l'exception en voie de naturalisation, eh bien, c'est pas protéger l'état de droit, comme l'a prétendu par exemple François Hollande lors de la prorogation de l'état d'urgence terroriste, c'est bien au contraire y contrevenir. C'est contrevenir à l'état de droit démocratique. Les dérogations autres qu'ostensiblement temporaires à notre ordre libéral démocratique ne peuvent être justifiées au nom de l'état de droit et de son idée. Elles en sont bien plutôt des atteintes. Maintenant, comme l'a dit Céline ce matin, il est à peu près sûr que c'est une illusion de penser qu'on puisse régler des crises durables sans déroger à nos droits et libertés. Mais très certainement qu'il nous faut mettre en débat lesquels de ces droits et libertés nous sommes prêts à sacrifier en vue de régler ces crises et que ces décisions n'ont pas à s'imposer verticalement ou d'un point de vue strictement technocratique aux citoyens. Voilà, je m'arrête là et je vous remercie pour votre attention.